Bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Des nouvelles contrastées sur le front de l'épidémie de Covid. En France, le nombre de cas est en baisse, mais pas suffisamment pour accélérer le déconfinement. Certains secteurs souffrent, particulièrement ceux qui ne sont pas concernés par le fonds de solidarité. Nous l'entendrons. Nous reviendrons également sur la discussion qui doit avoir lieu aujourd'hui entre les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat et Emmanuel Macron, qui a semblé dernièrement prendre à la légère certaines de leurs propositions. Enfin, la remise de la Légion d'honneur par la France au président égyptien Al-Sisi ne passe pas. Ce matin, l'intellectuel italien Corrado Ogias va renoncer à cette même décoration en signe de protestation. Alors que les États-Unis commencent ce lundi une campagne de vaccination, la France, elle, entame ce qui s'apparente à une campagne massive de dépistage ciblée sur quelques agglomérations, Le Havre et Charleville-Mézières pour commencer, avant, en janvier, Roubaix et Saint-Étienne, des endroits où le virus circule très rapidement. Le tout en vue d'un confinement un peu moins strict qu'attendent, mais que voient s'éloigner pourtant les bars et les restaurants, et puis également le monde de la culture. La filière hôtellerie-restauration appelle à un rassemblement aujourd'hui à 13h sur l'esplanade des Invalides à Paris et dans plusieurs villes de France. La filière dont tous les acteurs sont sinistrés, y compris les métiers moins visibles que sont par exemple les blanchisseries qui fournissent les hôtels. Des blanchisseries comme celle de Cyril Coria dans l'Essonne, particulièrement sinistrée et qui n'a pas droit au fonds de solidarité.
On est impacté de la même manière que les hôtels et les restaurants. Mais notre gros souci, si vous voulez, actuellement, c'est qu'on n'arrive pas à se faire entendre non plus parce qu'on n'a pas les mêmes dispositifs d'aide que nos clients. On a le chômage partiel, oui, mais c'est le seul point en fait que nous avons. Tout le reste, on est exclu. Nous sommes dans la liste des fournisseurs de ces secteurs qui sont sinistrés. En fait, on est touché de la même manière, mais en plus, vous sortez du dispositif quand vous avez plus de 50 salariés. Donc à aujourd'hui, nous sommes une blanchisserie donc dépendant de ce secteur et nous avons plus de 50 salariés. Donc on ne bénéficie d'aucune aide. On est à peu près sur une base prévisionnelle de 20% de chiffre d'affaires sur l'année 2020. Le mois dernier, nous avons fait 6% de chiffre d'affaires. Donc nous avons à peu près 300 clients au total et on a à peu près une dizaine de clients qui restent ouverts. Quand vous ouvrez une usine, que vous avez 40 draps au lieu d'en avoir 40 000, forcément, vous êtes dans une situation très compliquée. Aujourd'hui, c'est très simple. S'il n'y a pas un soutien en fait de l'État ni de la région, globalement, on arrive sur une situation où nous avons deux mois, trois mois de visibilité. Ensuite, il y aura une décision à prendre. C'est soit, en gros, vous vendez votre entreprise ou soit vous la mettez en redressement. Donc, quand j'entends le discours de Monsieur Castex qui dit texto qu'il ne laissera aucune société au bord de la route, c'est faux.
Des propos recueillis par Laura Dulieu. En France, les chiffres du Covid de ces dernières 24 heures montrent une décrue du nombre de cas, mais une légère hausse des hospitalisations. Elle est annoncée comme franche et directe, la discussion qui doit se tenir entre Emmanuel Macron et les membres de la Convention citoyenne pour le climat ce lundi. Accompagné de plusieurs ministres, le chef de l'État a prévu de discuter plusieurs heures avec les citoyens, tirés au sort et chargés d'élaborer des propositions pour une grande loi climat. Des propositions revues à la baisse par le gouvernement, ce qui a passablement irrité ces mêmes citoyens. À 17h, au Conseil économique et social, ils vont donc en discuter. Les membres de cette CCC, comme on l'appelle, avait publiquement interpellé il y a peu le président sur le manque d'ambition générale de l'exécutif à leur proposition, sans compter qu'Emmanuel Macron, lors de son interview récente à Brut, a qualifié ses propositions de « trucs qui ne seraient, je cite toujours, ni la Bible ni le Coran ». Quoi qu'il en soit, pour Laurence Tubiana, coprésidente du comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur le climat, ce serait une erreur de ne pas écouter les attentes des citoyens. Écoutez-la au micro de Véronique Reverotte.
Les citoyens sont prêts. Et cette expérience participative de délibération collective que le président de la République a bien voulu installer avec la Convention citoyenne pour le climat part de ce constat. Un, on ne peut pas emmener les citoyens là où ils ne veulent pas aller. Et deux, les citoyens sont beaucoup plus prêts que sans doute beaucoup de responsables politiques ne le pensent. Je pense que ces processus de délibération collective, à condition qu'ils soient profondément respectés, c'est-à-dire qu'on respecte la parole des citoyens, j'y tiens beaucoup, qu'on les considère comme des acteurs responsables et non pas comme des enfants. C'est ça qui va donner la légitimité, le courage et la capacité aux responsables politiques d'aller de l'avant. C'est difficile de changer. Il y aura toujours des voix pour dire « ça n'est pas le moment ». Mais justement, les citoyens disent « c'est le moment ». Donc, c'est la meilleure façon d'associer les citoyens, les faire devenir acteurs de leur destin, que le changement soit voulu et non subi. C'est la meilleure manière pour que on arrive ensemble à conduire toutes ces actions qui évidemment sont difficiles.
Laurence Tubiana. Le monde de la culture toujours confiné malgré les protestations et autres pétitions de plus en plus nombreuses. Le président de la métropole de Lyon a affiché hier son intention de rouvrir le musée des Confluences et demander l'autorisation au Premier ministre. Il ne devrait pas l'obtenir. Il reste pourtant un lieu de culture qui est redevenu accessible au public. Ce sont les bibliothèques et les médiathèques rouvertes depuis le 28 novembre. Depuis cette date, donc, le public est de retour malgré les contraintes sanitaires. Le reportage de Louise Adélaïde Boinard.
Les habitués de la bibliothèque pour tous, Théophile Gauthier, sont ravis de retrouver leur sanctuaire. Mais certaines choses ont changé dans cet établissement spécialisé dans les nouveautés littéraires. Un strict contrôle des règles sanitaires est appliqué, gel à l'entrée, nombre limité de personnes dans la boutique et désinfection des livres.
Vous voyez là cette petite caisse, c'est tous les livres qui vont partir à la désinfection et en quarantaine avant d'être remis en circulation.
Agnès est trésorière de la bibliothèque Théophile Gauthier.
On couvre les livres, donc il y a une couverture en plastique, parce que s'ils n'étaient pas couverts, on ne pourrait pas mettre de l'alcool. Donc on fait ça et après on les laisse en quarantaine.
Les lecteurs retrouvent surtout l'expertise et le contact avec un personnel passionné.
Vous allez lire un livre extraordinaire.
Voilà, c'est ce que j'ai entendu dire, donc c'est pour ça que j'avais demandé qu'on le mette.
Marie-Hélène Lafon, c'est vraiment une auteure.
Ah oui, et bien justement, je ne la connais pas.
Extraordinaire.
Antoine Joly de la médiathèque André-Gide partage ce constat. L'échange est au cœur des relations bibliothécaires-lecteurs.
Depuis 2 semaines, la bibliothèque revit avec ses usagers à l'intérieur. Les bibliothèques ont fait un effort assez important sur ce côté convivial, ce lien social. On parle de troisième lieu, la bibliothèque comme un lien de sociabilisation.
Ce que confirme Claire de la Bibliothèque pour tous.
Il y a pas mal de personnes isolées qui sont contentes de venir parce qu'elles s'assoient, puis elles parlent un petit peu. Et puis on fait aussi du portage à domicile pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, donc ça leur fait une visite. Et donc il y a une vraie demande.
L'année dernière, 6 millions de Français avaient une carte de bibliothèque.
C'est une décision prise par l'Élysée qu'il n'a pas du tout apprécié. L'intellectuel italien Corrado Ogias va se rendre ce matin à l'ambassade de France à Rome pour restituer sa Légion d'honneur en réponse à la remise de cette même décoration au président égyptien Al-Sisi. La Légion d'honneur qui a été remise donc par Emmanuel Macron au chef de l'État égyptien soupçonné de bafouer les droits humains dans son pays et qui a fait réagir plusieurs intellectuels et ONG, dont Corrado Ogias, donc fondateur du théâtre d'avant-garde romain et animateur très connu de la vie culturelle italienne. Le reportage du correspondant de France Culture à Rome, Antonino Gallofaro.
Ces atroces criminels condamnés par Corrado Ogias, eh bien, ce sont les assassins de l'étudiant italien Giulio Regeni, retrouvé mort au Caire en 2016 après avoir été torturé. Cet assassinat représente pour les Italiens une blessure sanglante, comme condamne l'écrivain. Il ne comprend donc pas la décision de Paris d'honorer le président égyptien.
J'aurais attendu de la part du président de la République française un geste de compréhension, sinon de fraternité. Au nom de l'Europe aussi, qu'ensemble, nous essayons si durement de construire.
Depuis bientôt 5 ans maintenant, cette affaire Regeni émeut l'Italie qui réclame toujours la vérité sur la disparition de l'étudiant. Corrado Ogias n'a donc pas supporté de voir qu'à Paris, la réelle politique l'a emporté au détriment d'un allié historique.
Je ne veux pas paraître trop naïf. Je connais bien les mécanismes des affaires et de la diplomatie. Mais il y a des limites. Dans ce cas, ces limites ont été dépassées, sinon outragées.
C'est donc avec douleur que Corrado Ogias a décidé de restituer sa Légion d'honneur. Il l'apportera lui-même ce matin à l'ambassade française dans la capitale italienne.
Et puis cette information qui vient de tomber, une explosion d'origine externe aurait eu lieu à bord d'un pétrolier au large de l'Arabie Saoudite. On n'en sait pas plus pour l'instant. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Enfin, on a appris la mort cette nuit de John le Carré, écrivain britannique de romans d'espionnage, ancien espion lui-même pour le compte de Sa Majesté, l'auteur de L'espion qui venait du froid, de La Constance du jardinier ou encore de La taupe, est décédé des suites d'une maladie à l'âge de 89 ans. Ses 25 romans inspirés de sa carrière d'agent secret l'ont hissé au rang, selon Stephen King, d'un géant littéraire, un écrivain brillant qui avait réussi à pénétrer la culture populaire. Dans son dernier roman, paru en 2019, John le Carré dressait un portrait sans concession du Premier ministre Boris Johnson, dépeint en porc ignorant. Il qualifiait le Brexit de folie. Le temps de ce lundi 14 décembre, une faible perturbation circulation va se décaler d'ouest en est, en passant par la région centre et Île-de-France. Elle s'étendra l'après-midi du nord de l'Aquitaine vers les Ardennes. Ailleurs, temps plutôt agréable. Les températures minimales, ce matin, entre 4 et 12 degrés d'est en ouest. Et cet après-midi, de 8 à 13 degrés, de 12 à 15 à l'ouest.